Pleine lune des Gémeaux, mai 1991. Un mot du maître. Aujourd'hui, l'idée d'une religion mondiale se diffuse peu à peu. La nécessité de son instauration se fait universellement sentir et partout l'on travaille dans ce sens. L'union des diverses croyances est actuellement l'objet de discussions. Ceux qui travaillent dans le domaine religieux formuleront les principes universels de cette nouvelle religion. C'est une œuvre de synthèse et d'amour, soulignant l'unité et la fraternité de l'esprit. Ce groupe de travailleurs est, dans un sens tout particulier, la voie des activités du Christ, l'instructeur du monde. Les fondements de la nouvelle religion seront édifiés par plusieurs groupements travaillant sous l'inspiration du Christ. Alice Bellet, Le Retour du Christ, page 129. Texte d'introduction à la méditation. Les recherches sur des points de doctrine ou les méditations réfléchies apporte beaucoup, mais elles sont autant importantes par l'acte même qu'elles représentent. Pourquoi? Parce qu'en observant sur le vif, en soi, le mécanisme de la pensée et du penseur, on tend à se connaître soi-même, à se dominer, à se diriger, à se maîtriser. Lorsqu'on acquiert ainsi une puissance de domination sur nos corps, c'est-à-dire sur nos instruments, nous nous apercevons que non seulement ils changent de nature en s'assouplissant et en devenant de plus en plus dociles, mais nous voyons aussi que nous prenons conscience de corps nouveaux, de plus en plus subtils, à commencer par le corps de l'âme, et cela pendant même notre incarnation. Dès cet instant, et en conscience de veille dans le cerveau physique, nous nous dirigeons ici-bas depuis le corps de l'âme, avec la lumière de l'âme. Notre conscience personnelle procède, pourrait-on dire, à un véritable accrochage de l'âme et agit en union avec elle. C'est un authentique commencement de fusion âme. Personnalité. Cette conscience causale se mêle progressivement à la conscience personnelle. Est-ce la conscience personnelle qui s'élargit et accueille? Est-ce la conscience de l'âme qui fait pression? Sans aucun doute, les deux sont à l'œuvre. C'est ainsi que nous connaissons l'âme en réalité pour ce qu'elle est et non plus en espérance avec des conceptions forcément erronées et donc entravantes pour la réalité de l'expérience. L'idée qu'on se fait d'une chose est souvent fort éloignée de la chose elle-même. Cette expérience ou croissance en conscience d'âme progresse par la pratique de la méditation et se manifeste spontanément par une vie de service active dans le monde. Les enseignements des maîtres sont indispensables également et ont un caractère formateur à cet égard. Mais ils ne peuvent à eux seuls remplacer ce quelque chose de plus qui est la maturation ou croissance naturelle. Un enfant se nourrit, mais c'est la nature qu'il fait se développer. Il en est de même pour l'âme. L'homme prend une nourriture spirituelle par ses lectures et ses méditations, et l'âme se développe comme une conséquence. Nous sommes directement responsables de nos décisions personnelles spirituelles, mais notre âme croît indirectement en fonction de ces décisions. En un premier stade, l'aspirant peut retenir l'enseignement de la sagesse, le restituer, le distribuer tel qu'il l'a compris. C'est une bonne chose, mais nous comprenons bien que ce n'est qu'une restitution ou une répétition, et non pas une connaissance directe en provenance de l'âme dont la diffusion serait la radiation vivante même, et en cela infiniment plus efficace quant au service. Or, le but de nos méditations, études et exercices est de tendre vers cette connaissance à l'abrupt, celle de l'esprit, que nous sommes en réalité et qui nous fait transcender tous les mécanismes automatiques et notamment la machinerie de la mémoire. L'approche de l'esprit se fait par une série d'identifications. La première découverte de la réalité est une distinction que nous pouvons faire spontanément entre la forme des choses et le vécu des choses. Autrement dit, entre la machine et le machiniste. L'esprit auquel on s'identifie progressivement par le biais de l'âme peut seul faire cette distinction. Que le machiniste ait de faibles pouvoirs sur sa machine au début, est sans importance car les pouvoirs iront en croissant. C'est la discrimination spontanée qui est la marque de la réussite. Alors pour la première fois, on se sent participant, vivant à l'œuvre divine, même dans une minuscule sphère. Le critère de cet état nouveau, irremplaçable et indescriptible, est une joie que rien ne peut assombrir car elle n'est pas originaire du monde, quoi qu'elle soit éprouvée dans le monde. Nous ne confondons plus les valeurs du monde apportées par notre corps de personnalité, valeurs qui sont toujours plus ou moins douloureuses, avec la valeur transcendantale apportée par notre corps de l'âme, valeur qui est toujours exaltante et qui s'appelle joie. C'est un véritable transfert de la conscience qui s'est opéré d'un véhicule à l'autre. L'ancien n'est pas annulé, mais il est né nouveau par le feu de l'esprit dont l'âme est le relais. Ce changement en nous-mêmes est celui d'une cellule de l'humanité, et donc correspond à un changement de l'humanité elle-même, c'est-à-dire de tous. Quand l'humanité s'élève ainsi globalement grâce à une cellule, ce sont toutes les autres cellules qui en bénéficient. Impossible de changer les autres sans se changer soi-même. Cette découverte nous libère quant à nos devoirs vis-à-vis des autres, mais nous responsabilise très fort par rapport aux devoirs que nous avons sur nous-mêmes. Mais c'est le sentier, et en dernier ressort, c'est l'excellence même. Heureux ceux qui l'abordent, car ils savent qu'ils ont la vision et les perspectives sont l'infinité. Il suffit de si peu de choses pour que l'homme soit en permanence dans la joie de l'être, au milieu des vicissitudes de la vie si pénible soit-elle parfois. Nous connaissons quelque peu la méthode de la grande transformation, lecture des livres des sages. Méditation réfléchie, mise en acte par le service. Il existe un petit secret. C'est celui qui consiste à décider de faire davantage attention à notre immuable point central de divinité, de sérénité et de royauté. Nous sommes fondamentalement un être royal disposant d'un royaume. Pour peu qu'on soit entier, c'est-à-dire en rapport fonctionnel juste avec notre royaume, nous nous connaissons tel que nous sommes en réalité, un roi. En discriminant entre le roi et ses pouvoirs, entre l'âme et son mécanisme, entre le machiniste et sa machine, par une présence vigilante, nous devenons des disciples engagés. Cette discrimination naturelle, simple, spontanée et lucide nous unifie dans la vérité de notre nature fondamentale, un seul être appelé Fils de l'homme et Fils de Dieu. À ce stade, on constate une transformation des circonstances extérieures vers un mieux, vers une harmonie, comme une sorte de guérison miraculeuse. C'est un effacement des aspérités douloureuses de la forme obtenue par le simple regard de l'âme. L'âme, devenant le vrai moi, regarde son autre moi, l'ancien, s'effacer. S'effacer, mais pas disparaître. La gangue d'égoïsme s'efface et l'ego diamant apparaît. Nous avons besoin de l'enveloppe autant que de l'âme sous l'égide de l'esprit. Ce triangle éternel est la démonstration que nous sommes faits à l'image de Dieu. Chacun à sa place peut vivre cette nouvelle vie et participer pleinement à ses responsabilités, dont une des principales consiste à sentir les choses et ainsi à pouvoir participer intelligemment au dessein divin. Parmi les choses que l'on peut sentir, existent ces courants énergétiques, cycliques, qui sont si merveilleusement qualifiés. C'est ainsi que ce moi reçoit les vagues de dons particulièrement intenses au moment de la pleine lune et qui ont la propriété d'élever l'humanité comme un tout et de l'aider dans la mesure de sa sensibilité à régler tous les problèmes de dualité. C'est une fête pour l'humanité prise comme un tout et le moment est privilégié pour prier ou invoquer afin que la paix et la fraternité deviennent une réalité quotidienne. Si tous les hommes du monde répondaient à ces bouffées d'amour en provenance de la source de tout amour, ils se donneraient la main et s'aimeraient les uns les autres. En attendant qu'il en soit ainsi, que tous ceux dont la sensibilité spirituelle est suffisamment affinée pour capter ces énergies divines fassent ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Chacun sait, car c'est une affaire personnelle, individuelle. Ensuite, en tant que connaissants réunis, les entreprises de groupe sont portées par ces courants de lumière, d'amour et de puissance, et l'humanité tout entière s'en trouve alors rédemptée.